tout le monde. Ici Erwan dans Erwan sur les flots. J'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Je commence malheureusement par la mauvaise. Aujourd'hui, c'est mon dernier rendez-vous avec vous. Et oui, la route du Rhum s'achève. Mais je serai là, de retour sur la web radio en 2019 pour d'autres aventures sur les flots. La bonne nouvelle, c'est que je vais vous parler bien évidemment de la route du Rhum pour la dernière fois. Et je vais aussi vous parler des dangers de la voile, comment ça se passe quand on chavire. Thibaut va nous rejoindre, il est là. Bonjour Thibaut.
Allô?
Ah voilà, bonjour Thibaut.
Bonjour à tous.
On va faire un récapitulatif sur la course. Du coup, on va commencer par les ultimes, qui ont commencé la course largement menée par François Gabart et Armel Lecléache, et aussi Sébastien Jose. Et malheureusement, on va commencer par Sébastien Jose, qui lui était le premier à avoir des problèmes. Lui, il a perdu 8 mètres de son flotteur droit. Et Armel Lecléache, qui lui avait aussi des problèmes, on va dire 4 heures après le départ, s'est arrêté parce qu'il n'était pas localisé. Alors tout le monde avait un peu peur du chavirage et de tout ça. Toi aussi, t'as pensé ça, Thibaut ?
Oui, alors effectivement, une route du Rhum vraiment compliquée pour ces bateaux, pour ces ultimes tout récents, qui sont tout juste sortis des chantiers et mis au point. Et puis avec ces trois grosses dépressions qui se sont abattues sur le golfe de Gascogne, sans répit entre elles. Donc la flotte de cette route du Rhum n'est pas sortie indemne des 5 premiers jours de course. Et on a vu effectivement les premières casses. Alors bien sûr, il y a eu celle d'Edmond du trimaran de l'ultime Rothschild, pardon, qui avec son étrave complètement arrachée, on l'a vu sur les images qui sont assez impressionnantes. L'équipe a dit ne pas avoir encore tous les éléments pour donner un peu des explications sur cet incident. Alors c'est vrai que c'est des bateaux tout neufs, comme on l'a dit durant ces émissions quand on suivait la course. Donc c'est vrai qu'il y a encore du développement à faire, des calculs de structure à affiner et des méthodes de fabrication aussi à préciser. Donc voilà, c'était une course difficile pour les ultimes, encore une fois, et on l'a vu ensuite avec le chavirage de bande populaire d'Armel Lecléache suite à la casse de son flotteur, comme tu le disais, et puis également une fissure sur le bras de liaison pour Thomas Coville, même si lui a pu repartir par la suite et terminer la course du coup en troisième position. Mais voilà, c'était vraiment une course difficile pour les ultimes, avec beaucoup de gros temps, beaucoup de grosses mers surtout.
Oui, et après pour Thomas Coville, qui lui aussi avait des problèmes, quand je l'avais dit à ma première ou deuxième émission, non, toi t'étais là, c'était ma deuxième, du coup... il avait aussi des casses, il s'est arrêté avec Sébastien Jose. Et voilà, et moi je pensais pas qu'il allait repartir, mais voilà, il est reparti, il a bien fini la course. Il était reparti quatrième des ultimes, et il est arrivé troisième parce que Romain Pillat, avec son « We might use it again », on va dire, un bateau assez vieux.
Oui, effectivement, on savait qu'il partait pas pour gagner. Il court sur un ancien Norma, donc un trimaran de 18 mètres d'ancienne génération, avec un projet totalement différent pour promouvoir un peu le commerce autrement et la sauvegarde de l'environnement. Donc voilà, c'est vrai que Thomas Coville n'a pas eu trop de mal, il faut le dire, à le rattraper, mais c'était sur un projet complètement différent que partait Romain Pillat.
Ouais, et pour les multi-50, en fait, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que le premier qui a fini la course en multi-50 était Armel Tripon. Et lui était aussi très rapide, mais lui, il était dernier, il a fait un stop, il est parti par le sud, il est repassé premier. Et du coup, en fait, sans le stop, il aurait pu gagner la course parce qu'il a rattrapé vraiment très, très rapidement les deux ultimes. Hein, Thibaut ?
Oui, exactement. Alors vraiment, on a assisté à une très très belle course d'Armel Tripon en multi-50. Donc, avec un temps de référence de plus de 2 heures avant celui d'Erwan Leroux en 2014. Et puis en plus, ça intervient 15 ans après sa victoire en proto dans la Mini Transat en 2003. Donc voilà, c'était un très grand marin, Armel Tripon, qui a su rebondir sur beaucoup de sponsors en Figaro, en classe 40, en IMOCA, et donc maintenant multi-50. Et il a vraiment très bien géré sa course, il a montré une maîtrise totale, avec uniquement 2 saisons avec sur ce support en multi-50. Hein, ça fait que 2 ans qu'il est sur ce bateau. Et donc voilà, sur ces un peu ces kartings de la course au large où les marins naviguent un peu avec une guillotine au-dessus de leur tête, l'exploit en est d'autant plus grand. Ouais.
Oui, et après avec Gilles Lemire, moi je croyais vraiment pas, je croyais qu'il allait arriver après Thierry Bouchard qui lui est arrivé cinquième et 4 jours après Gilles Lemire, parce que Gilles Lemire en fait c'est le seul à avoir des dérives, mais tout le monde dit que c'est un super marin. Alors moi je trouvais que sérieusement je trouvais qu'il allait avoir plus de problèmes que les autres. Tu es d'accord, Thibaut?
Oui, c'est vrai. Alors, effectivement, il a fait une très bonne course aussi, avec des dérives droites, ce qui n'était pas évident après pour recoller dans les alizés. Mais voilà, il avait un bateau peut-être plus fiabilisé, donc c'était un beau pari et une très belle course de sa part.
Oui, et maintenant pour les IMOCA, eux aussi, ils sont tous arrivés. Eux, ils ont compté quand même. Isabelle Yoshke, Yannick Belstaven, Samantha Davis, Jérémy Bayou et Louis Burton comme abandon. Alors Jérémy Bayou, je trouve ça un peu plus normal que les autres skippers parce que c'est un nouveau bateau, il le connaît pas encore complètement. Et voilà, du coup, je sais pas comment dire. Et c'était un peu clair, en quelque sorte, qu'il allait abandonner ou tu croyais qu'il était favori, Thibaut?
Oui, alors effectivement, tout le monde avait vu son bateau naviguer sur les premiers rendez-vous de la saison, notamment le trophée Azimut ici à Lorient, où on avait vu le bateau vraiment décoller et en vitesse atteindre des sommets par rapport à ses concurrents. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il était assez imposant ce bateau. Par contre, voilà, mise à l'eau l'été dernier, donc un timing de préparation vraiment très juste pour Jérémy Bayou et son équipe. Et le bateau n'était peut-être pas encore complètement fiabilisé. Il savait que c'était un pari. Et de toute façon, l'objectif était de voir un peu comment le bateau se comportait pour la suite du programme, et notamment donc le Vendée Globe dans 2 ans. Voilà, une suite de petits problèmes qui sont typiques d'un bateau qui n'est pas forcément préparé au top dû au manque de temps pour Jérémy Billoux, qui l'ont contraint finalement d'abandonner sa course à Lorient.
Et oui, et toujours pour les IMOCA, les 4 premiers. Normalement, c'est Alex Thompson qui devait arriver premier, mais avec son nez, comme il a eu un échouage, bah il a eu 24 heures de pénalité. Mais quand même, ce qui est assez étonnant, c'est que Paul Meillat, qui a le bateau de l'ancien bateau de François Gabart, ce bateau a déjà gagné la Route du Rhum en IMOCA, justement. Il a aussi gagné le Vendée Globe. Alors c'est un bateau qui est quand même assez performant pour un bateau à dérive. Mais c'est quand même lui qui a battu Yann Eliès, Vincent Rioux et Boris Herman. En quelque sorte aussi Alex Thompson. Est-ce que tu es maintenant de l'avis que les foils ne changent pas tout?
C'est une très bonne question. C'est un peu la question qu'on se pose encore aujourd'hui, même si de plus en plus on voit que les bateaux à foil prédominent sur les courses au large, notamment dans cette classe IMOCA où on a vu que maintenant la plupart des bateaux sont équipés de ces appendices qui permettent aux classes 60 de se soulever un peu sur l'eau et donc de gagner en puissance. Mais il y a aussi, comme tu le disais, la fiabilité et la justesse de navigation qui font aussi la performance. Et c'est ce qu'a fait Paul Meillat avec un bateau certes plus ancien, sans foil, avec des dérives droites. mais un bateau qui avait déjà gagné le Vendée Globe, la précédente Route du Rhum, et donc qui était très fiabilisé. Paul Meillat connaît ce bateau par cœur, et donc c'est un peu, on pourrait dire, une réussite du facteur humain, un retour, une forme d'humilité, et c'est très bien pour la course au large et pour cette classe.
Maintenant, on passe aux classes 40 où ils sont déjà 32 à être arrivés.
Exactement.
Tu veux faire le pointage ou...
Alors le 32e, alors on va peut-être pas redire les 32 arrivés, c'est le 32e, c'est Jean-Marie Louara sur Klaxoon, le numéro 103 qui est arrivé pour l'instant. À noter un petit coucou à Andrea Fantini, 31e en classe 40, que je salue, qui s'entraîne en Méditerranée, pas loin de chez nous. Et Cédric de Kervanoël, 29e aussi, que je salue, puisqu'il court sur un bateau qui est exactement le même que le mien, c'est le Sister Ship. Donc voilà, un petit salut à ces deux-là. Ensuite, sinon, pour revenir un peu sur les premières arrivées, on l'a rappelé, on l'avait dit dans la précédente émission, une course assez fantastique de Johan Richomme avec son bateau, le Lift 40. Pour sa première participation, il aura marqué cette édition 2018 de la Route du Rhum par sa victoire en 16 jours, 3 heures et 22 minutes, donc près de 8 heures d'avance sur Aymeric Chapelier, le deuxième, et presque 10 heures sur Phil Sharp, qui sont pourtant de très gros clients en classe 40. Phil Sharp a remporté le championnat classe 40 une nouvelle fois cette année, et voilà, une très grande expérience pour ce marin britannique aussi. Mais voilà, Johan a clairement fait la différence au début. Il a réussi à pousser son bateau, à appuyer tout en réussissant à ne pas casser. Et donc, il a fait vraiment une trace parfaite. Et on savait que dans cette classe, il y avait du haut niveau. Et il y a eu de la bagarre, comme on s'y attendait. Et pourtant, Johan Richomme a quand même franchement dominé, même si derrière, les autres ne Et on a aussi remarqué les performances incroyables du plan lombard du bateau de Johan Richomme, puisque derrière c'était surtout des Mac 40. Donc, pareil, son bateau il l'avait depuis pas très longtemps, il l'a pris en main que en juin et il avait dématé fin juillet. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une très très belle performance pour Johan Richomme que l'on salue.
En rhum nickel, là, ils sont partis quand même en tout. Alors maintenant, il y en a encore 12 en course. Et il y en a 11 qui sont arrivés. Le dernier, Gérard Bideau, sur Z7, est encore à 279,1 milles de l'arrivée. Il avance actuellement, il y a 4 minutes, il avance à 8,5 nœuds. Et on va rappeler quand même les 3-4 premiers. Alors Pierre-Antoine, Jean-François Litelli et Pierre Rochaine, que eux sont. J'ai pas trop suivi. Je sais pas si toi t'as suivi, Thibaut.
Oui, alors Pierre-Antoine sur Allmix, donc son trimaran, il a remporté une victoire écrasante. Hein. Il a dû attendre plus de 2 jours ses partenaires de podium, Jean-François Lilti, comme tu l'as rappelé, sur École Diagonale pour Citoyens du Monde, et Étienne Ochédé sur Pierre 2. Donc voilà, il avait clairement affiché son ambition d'inscrire son nom au palmarès de la Route du Rhum pour sa troisième tentative, même s'il a dit qu'il s'attendait à plus de matchs avec d'autres skippers. Donc voilà, peut-être une petite déception de ce côté-là, de pas pu avoir régaté au milieu de l'Atlantique, puisque son avance était tout simplement trop grande. Et donc voilà, c'est l'ancien Crêpe Waou, son bateau, qui a remporté 2 fois la Route du Rhum, déjà aux mains de Francky Vescoffier, un bateau de 91. Donc voilà, c'est vrai que c'est une belle performance pour Pierre Olmix, qui était venu pour gagner, et il a réussi. Et puis un peu pareil en rhum mono, puisqu'il n'y a pas eu vraiment de match. La régate a été pliée en quelques jours par Sidney Gavinier, qui était dominateur sur Café Joyeux, un ancien monotype de 50 pieds, qui était destiné au départ pour effectuer un tour du monde.
Ouais.
Donc voilà, c'était une belle émotion aussi pour Sidney Gavigné puisqu'il arrête sa carrière de course au large. Donc voilà, c'est la fin pour lui. Il a fait que ça pendant de nombreuses années et donc c'est un changement de vie pour Sidney Gavigné.
Oui,
Il finit sur une belle note.
et maintenant, comme on a vraiment presque plus de temps, je vais parler rapidement sur les dangers de la voile. Alors, j'ai aussi trouvé une vidéo sur YouTube il y a assez longtemps où j'ai appris tous les dangers. Alors, par exemple, on peut avoir un petit bateau qui part, qui essaye de partir, qui a des grosses vagues. Et ça n'hésite pas à faire chavirer le bateau. Je sais pas, le bateau s'est retourné, on voit plus rien, mais t'as déjà entendu parler de ça? De ce moment où il y avait un bateau qui est passé sous le pont et on n'a plus rien vu? Jamais entendu
Oui,
parler?
alors dans ces cas-là, alors ce qu'il faut savoir en monocoque, c'est que c'est assez difficile de chavirer.